Comment se porte l'économie en Afrique subsaharienne? Le rapport 2024 sur les perspectives économiques régionales, publié récemment au mois d'avril, donne des indications sur l'évolution économique de la région qui part du Mali à l'Afrique du Sud. Et pour en parler, Radio de la Paix reçoit Luc Hérault, directeur des études régionales pour l'Afrique au Fonds monétaire international, auteur de ce rapport. Luc Hérault répond aux questions de Jean-Claude Comé.
Auditrice, auditeur de la Radio de la Paix, nous avons l'insigne honneur de recevoir M. Luc Hérault, qui est chef des études régionales pour l'Afrique subsaharienne au Fonds monétaire international FMI. M. Luc Hérault, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors, vous êtes en Côte d'Ivoire pour présenter ce rapport qui a pour titre les perspectives pour l'Afrique subsaharienne, ce rapport que vous présentez deux fois par année. C'est votre pratique.
Exactement. Le FMI publie deux fois par an un rapport sur l'économie de l'Afrique subsaharienne. C'est un rapport sur l'économie régionale qui couvre 45 pays. Ça va du Mali jusqu'à l'Afrique du Sud. Ça couvre toute l'Afrique subsaharienne.
45 pays, justement, en tant que responsable de cette étude-là, quelle est votre méthode d'étude, justement ?
Ben vous savez, au FMI, on a des équipes pays qui travaillent avec les pays individuels. Et donc, on a beaucoup de rencontres avec ces équipes pays pour avoir un retour de chaque pays. Et nous, ensuite, on fait la synthèse et on essaye de définir les grandes orientations régionales.
Alors, ce rapport présentation des perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne, c'est un rapport qui vient de sortir dans le mois d'avril. Et vous avez décidé de vulgariser ce rapport de manière succincte. Que retenir, justement ?
Le message principal de notre rapport, c'est un message qui est positif. On a une reprise économique dans la région avec une croissance qui s'accélère en 2024. Et donc, le message principal de notre rapport, c'est de dire aux autorités, les efforts que vous avez faits commencent à porter leurs fruits, la croissance reprend, ne baissez pas les bras et continuez.
Justement, il y a un thème qui a attiré mon attention, une reprise timide et coûteuse. Comment déjà vous pouvez expliquer cela ?
Alors le terme « coûteux » vient du fait qu'on a observé ces dernières années un phénomène en Afrique subsaharienne que nous avons appelé la pénurie de financement. Qu'est-ce qu'on veut dire par pénurie de financement ? On veut dire que l'argent est devenu plus rare et devenu plus cher. Je pense que vos auditeurs sont tous rendus compte, s'ils vont à la banque, les taux d'intérêt ont augmenté. Et le coût de financement, pas seulement pour les individus, mais aussi pour les États, a augmenté. Et donc, cette situation a rendu les réponses des politiques économiques beaucoup plus compliquées. Parce que maintenant, ça coûte cher de faire des politiques publiques.
Pour le contenu de ce rapport, vous parlez donc de 4 années mouvementées. C'est ces 4 années mouvementées que vous avez notées étaient dues à quelle situation ?
En effet, les dernières années ont été très difficiles. Et elles ont été difficiles à cause de 3 grands chocs qui ont impacté, qui ont affecté négativement la région. Le premier choc, vous le connaissez, en 2020, la crise de la Covid, qui a amené de fortes perturbations dans l'économie mondiale et aussi dans les économies des pays africains, avec des confinements, des mesures de distanciation sociale qui ont eu un impact sur l'activité. Ça, c'était le premier choc. Le deuxième choc, en 2022, la guerre en Ukraine. Avec la guerre en Ukraine, les prix des matières premières, y compris les prix des produits alimentaires, ont beaucoup augmenté. Et ça, ça a eu un impact sur les populations, et en particulier sur les populations les plus pauvres. Et enfin, le troisième choc, c'est ce qu'on appelle la pénurie de financement. C'est la forte hausse des taux d'intérêt dans le monde et le fait que beaucoup de pays qui avant étaient capables d'emprunter sur les marchés internationaux n'ont plus été capables d'aller sur les marchés internationaux parce que c'était trop cher.
Pour l'auditeur qui vous écoute, une guerre qui se passe en Ukraine, pays très loin de l'Afrique, pourquoi on ressent ça chez nous ?
Non, c'est une bonne question, c'est une question vraiment légitime. Le monde est de plus en plus interconnecté. C'est-à-dire qu'une population qui est dans un pays africain est affectée par des événements économiques qui se passent à l'autre bout du monde. Vous prenez l'exemple de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, puisque l'Ukraine est un grand producteur agricole, a créé des grosses perturbations sur la production agricole dans le monde, a fait augmenter les prix des produits agricoles. Et donc, beaucoup de pays africains qui importent ces produits agricoles parce qu'ils ne les produisent pas eux-mêmes ont vu leur facture de produits agricoles augmenter beaucoup. Et c'est comme ça que ça a affecté les pays de la région.
Alors, un point que vous relevez, la cherté de, parlons communément, de l'argent. Pour emprunter, il faut payer un peu plus. Comment on peut expliquer cela ? L'argent se fait rare ou c'est quoi ?
Alors, en effet, on parle donc de cette pénurie de financement et du fait que l'argent est devenu plus rare et plus cher. Il y a deux grandes explications à cela. La première, c'est une explication que nous on appelle en tant qu'économiste conjoncturelle, c'est-à-dire elle est transitoire, et qui est le fait que dans le monde entier, l'inflation a augmenté. Et parce que l'inflation a augmenté, les banques centrales qui luttent contre l'inflation ont remonté leur taux d'intérêt. Et ça, ça a affecté tous les pays du monde, parce que tout le monde a dû se confronter au même problème d'inflation. Et donc tout le monde s'est retrouvé avec des conditions financières plus difficiles. Je dis c'est transitoire parce que quand l'inflation finalement redescend, on s'attend à ce que les banques centrales rebaissent les taux d'intérêt. Et ça, cet effet devrait être transitoire. Mais il y a aussi un effet plus profond, plus structurel, qui vient du fait que certains financements dont bénéficiaient les pays d'Afrique subsaharienne ont eu tendance à se tarir ces dernières années. Et notamment, l'aide au développement a diminué en proportion de la taille des économies africaines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les pays riches ont continué de donner les mêmes montants, mais vu que l'économie des pays augmentait, on part de leur pays en proportion de la taille des pays. En fait, cette aide au développement a diminué.
Et les besoins se font grandissants, bien sûr, pour ces pays demandeurs. Alors, vous vous intéressez aussi à la reprise. Après ces moments de turbulence, il y a une certaine reprise. Quels sont les facteurs qui favorisent cette reprise-là ?
En effet, on observe une reprise avec une croissance qui passe de 3,4% en 2023 à une croissance de 3,8% en 2024. Et dans nos analyses, 2/3 des pays de la région vont croître plus rapidement cette année que l'année précédente. Alors, vous posez la question des causes. Alors, il y a des facteurs qui sont communs à tous les pays, puis il y a des facteurs qui sont spécifiques à certains pays. Parmi les facteurs communs à tous les pays, il y a une reprise mondiale dans certains pays comme les États-Unis et la zone euro, qui sont des partenaires commerciaux des pays africains. Donc ça, c'est bien, ça tire les exportations africaines. Parmi les facteurs communs, on a aussi des conditions de financement qui ont tendance à s'améliorer un petit peu, notamment pour les emprunts sur les marchés internationaux. Les coûts ont diminué. Vos auditeurs sont de Côte d'Ivoire, donc ils ont sûrement entendu dire que la Côte d'Ivoire a été capable d'émettre une euro-obligation en janvier, c'est-à-dire emprunter sur les marchés internationaux en janvier. Les conditions, la demande privée aussi s'améliore, à la fois la consommation des ménages, l'investissement des entreprises. Donc il y a tout un ensemble de facteurs communs qui expliquent la reprise économique. Et ensuite, évidemment, selon les pays, il y a des facteurs spécifiques. Et là, je vous donnerai un exemple. Il y a deux pays qui croissent le plus vite de toute l'Afrique subsaharienne en 2024. Ces deux pays, c'est le Niger et le Sénégal. Et ils croissent très fortement à cause de la mise en service de projets d'hydrocarbures, de gaz et de pétrole qui sont rentrés en service cette année.
Alors, mais pour le cas nigérien, cela semble un peu paradoxal. Hein. C'est un pays qui est classé comme un pays un peu en difficulté hein, au plan économique. Et puis, paradoxalement, ce pays connaît un boom en termes de prévisions. C'est seulement dû à cette découverte.
Oui, c'est la raison principale.
Mais ça, c'est conjoncturel, on peut
et
dire.
Et ça, c'est conjoncturel. Donc, la hausse de la croissance va durer le temps que la hausse de la production se réalise. Quand ensuite la production se stabilise, la croissance va revenir à son niveau tendanciel, moyen.
Et vous êtes optimiste au FMI, hein, prévision même 2025, 4%. Sur quelle base vous fondez pour projeter 4% déjà en 2025 pour ces pays-là ?
Alors, c'est une combinaison de croissance de beaucoup de pays différents. Mais qu'est-ce qui est notre hypothèse principale ? Notre hypothèse, c'est que beaucoup des réformes qui ont été mises en œuvre récemment vont continuer et que les États vont continuer dans leurs réformes. De quelles réformes je parle ? Notamment des réformes de stabilisation économique. Vous avez probablement vu, l'inflation est en baisse dans beaucoup de pays et les déficits publics ont commencé à diminuer. Donc tout ça va permettre aux économies d'être plus saines, d'avoir plus de marge de manœuvre pour répondre aux chocs. Et ça, ça va permettre à la croissance d'être plus élevée.
Le FMI, c'est vrai, on vous découvre aujourd'hui par cet aspect de réflexion, d'aide donc en termes de projection de développement. Mais quand, pour le commun des Ivoiriens ou des auditeurs qui nous suivent, quand le FMI est présent, c'est dire qu'il y a quelques problèmes peut-être dans les finances publiques, pour inciter à plus d'efforts. C'est comme ça qu'on doit vous percevoir. Vous avez l'occasion de clarifier votre position aujourd'hui.
Non, je ne pense pas. Par exemple, le FMI est présent en Côte d'Ivoire, dans un pays qui a une très bonne performance économique aujourd'hui, avec une croissance au-dessus de 6% et une inflation en baisse. Le FMI est là pour aider les pays à bâtir leur politique économique de manière crédible et arriver à résoudre les problèmes qu'ils ont. Tous les pays ont des problèmes. Donc le FMI est un partenaire qui aide les pays à réduire leur, ce qu'on appelle les déséquilibres économiques, c'est-à-dire on les aide principalement à réduire l'inflation et à réduire la dette publique. Pour beaucoup de pays, avoir le FMI à leur côté, c'est l'assurance de pouvoir bénéficier d'un capital crédibilité qui leur permettra d'aller sur les marchés internationaux. Et c'est aussi pour d'autres pays un capital crédibilité qu'ils utilisent pour attirer les financements des bailleurs de fonds, des pays riches qui, par exemple, prêtent à des taux réduits aux pays africains.
C'est-à-dire qu'avoir une institution comme le FMI dans le sens de la collaboration, de la performance, est utile pour les pays donc en développement comme les nôtres.
Tout à fait. On n'impose jamais un programme du FMI. C'est une décision des autorités qui, à un moment donné, ont envie d'avoir un soutien. Un soutien qui a différentes formes. Un soutien d'aide de formulation de la politique économique. On donne des conseils. Vous savez, on a beaucoup d'experts au FMI à Washington, dans tous les domaines. Et parfois, les autorités ont envie de bénéficier des conseils. Vous n'êtes pas obligé de les prendre, mais vous bénéficiez des conseils. Et ensuite, l'autre fonction du FMI, c'est aussi qu'on apporte parfois des financements à des taux très privilégiés et très préférentiels qui sont inférieurs aux taux auxquels les pays emprunteraient s'ils allaient uniquement sur les marchés.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.
Mes auditeurs, si vous me prenez en marche, vous êtes avec M. Luc Hérault. Il est, je rappelle, chef des études régionales pour l'Afrique subsaharienne, donc au Fonds monétaire international, le FMI. Il se prête à nos questions. Il est en Côte d'Ivoire à l'occasion de la présentation d'un rapport assez intéressant, justement, les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne. Voilà, qui, selon le FMI, l'Afrique qui reprend des couleurs. Mais il faut faire attention, c'est ce qu'on doit retenir. Alors, pour revenir au rapport, vous parliez des perspectives qui demeure exposé au risque, donc plutôt baissier. Alors, embelli, mais il faut faire attention.
Exactement. Embelli, mais il faut faire attention. Il y a deux types de risques importants, à mon avis, à ce moment qui est un peu un moment de carrefour pour l'Afrique subsaharienne. D'abord, il y a des chocs externes auxquels il faut être très vigilant, et notamment les chocs climatiques. L'Afrique subsaharienne est le continent et la région la plus exposée au changement climatique. Les événements climatiques extrêmes sont devenus de plus en plus fréquents. Et pour vous donner juste un exemple, aujourd'hui, vos auditeurs savent probablement que dans tout le sud de l'Afrique, une sécheresse terrible sévit dont la difficulté n'a jamais été perçue depuis des décennies. Donc c'est une sécheresse extrêmement difficile. Et au-delà de ces chocs externes, il y a aussi des incertitudes domestiques et notamment d'ordre politique. Alors, cette année, il y a un nombre record d'élections nationales dans la région, 18 élections nationales dans la région d'Afrique subsaharienne. Donc ça, ça crée un peu d'incertitude sur la continuité des politiques économiques. Et puis, il y a un problème encore plus important que ça, c'est qu'on a aussi observé un grand nombre de coups d'État ces dernières années. 11 coups d'État en Afrique subsaharienne depuis 2020. Et ces coups d'État peuvent créer des incertitudes encore plus fortes, notamment sur l'investissement, sur le climat d'investissement et sur la capacité des pays aussi à emprunter.
Vous parlez des coups d'État. Vous êtes en Côte d'Ivoire, des pays voisins qui vivent ces situations. Déjà, clin d'œil en termes de décision de ces pays-là. On l'a vu par rapport à l'approche politique, trois pays qui ont formé une union qu'on appelle l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ont décidé de se retirer, par exemple, de la CEDEAO, qui est la communauté économique qui regroupe une dizaine de pays, une quinzaine pour être précis. Impact déjà, pour cadrer avec l'exemple d'une économie qui évolue et qui a une cassure avec des coups d'État.
Alors, ce sont des décisions souveraines et le FMI, on n'a pas de jugement à porter sur les décisions qu'ils prennent. Donc nous, en tant qu'économistes, on analyse les conséquences économiques. Un point très important que je veux vraiment préciser pour vos auditeurs, ces trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, ont décidé de sortir de la CEDEAO. Mais il n'y a pas eu d'annonce de sortie de l'UMOA. Et peut-être que je vais expliquer à vos auditeurs la différence entre ces deux choses. La CEDEAO, c'est l'union commerciale. C'est une région de libre-échange entre différents pays où il y a une libre circulation des biens et des personnes. L'UMOA, c'est une union monétaire avec des gens qui partagent la même monnaie qui est le franc CFA. Quitter la CEDEAO, ça aura un impact, mais ce n'est pas un impact très fort. Au moins à ce niveau-là, on ne pense pas que l'impact sera très fort. Mais ce n'est pas quitter l'UMOA. Les pays n'ont pas annoncé qu'ils allaient quitter l'UMOA, ils ne vont pas quitter le franc CFA par exemple. Notre analyse sur le fait de quitter la CEDEAO, c'est que l'impact sur le commerce devrait être assez limité. Parce que les pays, le Burkina, le Mali et le Niger, commercent aussi beaucoup avec les pays de l'intérieur de l'UMOA, et l'UMOA, il reste dans l'UMOA. Il y aura peut-être un impact sur la croissance, mais plutôt modérée à cause peut-être de l'incertitude que ça crée pour le climat d'investissement. Nos équipes pays vont aller rendre visite aux autorités et vont faire des analyses de l'impact économique qui sera publié dans chacun de nos rapports. Donc pour l'instant, on n'est pas très inquiet, mais on va faire le travail d'analyse et on va évaluer l'effet sur l'économie.
En tout cas, en attendant justement d'analyser cette situation, comme à l'accoutumée, hein, ce rapport fait des recommandations en termes donc d'avance sur la politique économique de ces pays que vous analysez. Justement, on peut revenir sur certaines recommandations fortes.
Donc on a trois grandes recommandations. La première, elle est pour l'État. La situation du budget, la situation de la dette s'est beaucoup détériorée depuis une décennie. La dette a beaucoup augmenté et il est très important aujourd'hui de réduire les déficits publics qui ont augmenté de façon légitime pendant la crise de la Covid et la guerre en Ukraine. Mais maintenant, il faut revenir à des déficits plus bas. Donc la question principale pour les pays de la région, c'est comment on fait pour réduire les déficits sans compromettre, sans endommager le développement économique. Et notre rapport donne des conseils là-dessus, y compris en insistant sur le fait qu'une manière de réduire les déficits sans endommager la croissance, c'est de mieux mobiliser les ressources fiscales. Il vaut mieux augmenter les impôts plutôt que couper les dépenses en coupant des dépenses d'éducation, de santé ou des dépenses sociales. Quand on dit augmentation des impôts, on ne dit pas forcément augmenter les taxes. Ce qu'on dit plutôt au FMI, c'est augmenter ce qu'on appelle l'assiette fiscale. C'est faire en sorte que le nombre de contribuables augmente. Tout le monde doit payer l'impôt. C'est la discipline fiscale. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui payent déjà l'impôt vont payer encore plus. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est que vous l'avez vu, l'inflation baisse. Elle baisse en Côte d'Ivoire, elle baisse un peu partout. Donc, est-ce que la politique monétaire, est-ce que la banque centrale peut commencer à baisser les taux d'intérêt? Et là, ça dépend, mais dans la moitié des pays à peu près d'Afrique subsaharienne, l'inflation a beaucoup baissé et elle est revenue dans ce qu'on appelle la cible de la banque centrale. Les banques centrales, elles ont des cibles d'inflation. Par exemple, en UMOA, c'est entre 2 et 4%. Et une fois que c'est revenu dans cette cible, elle peut commencer à rebaisser les taux. Mais ça, c'est vrai pour la moitié des pays. Les autres, c'est plus compliqué. Et dans les autres, en fonction des différents pays, c'est soit on conseille une pause, soit dans certains pays où l'inflation continue encore d'augmenter, on conseille d'augmenter les taux d'intérêt. Et enfin, le troisième recommandation très importante, c'est que les pays doivent continuer à faire des réformes de fond, des réformes structurelles qui renforcent leur potentiel économique. Et notamment dans notre rapport, on parle beaucoup de la diversification.
Justement, je rebondis sur ce mot. Vous parlez de réformes structurelles pour diversifier l'économie. Pour des cas comme le cas ivoirien, aujourd'hui, grand producteur du cacao notamment, du café aussi et bien d'autres produits, qu'est-ce que le fonds pourrait proposer en termes de pistes pour redynamiser encore plus cette économie?
Alors, la Côte d'Ivoire est un pays qui produit du cacao, mais c'est un produit avec une économie diversifiée. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire croît aussi vite. Peut-être les gens ici pensent que le cacao, c'est une très grosse part de l'économie, mais c'est pas une très grosse part de l'économie. Là, c'est une force de la Côte d'Ivoire que d'avoir justement des productions et des exportations dans un grand nombre de produits. Si vous comparez par exemple à un voisin, le Nigeria, qui est très très concentré sur le pétrole. Donc, ce qu'on montre dans notre rapport, c'est que la diversification économique, c'est-à-dire le fait de produire beaucoup de produits différents et pas juste un ou deux produits, c'est très bénéfique. On a comparé dans notre rapport la croissance économique des pays qui étaient diversifiés aux pays qui étaient très très concentrés dans une ressource naturelle. Eh bien, les pays diversifiés, ils croissent deux fois plus vite que les pays qui ne sont pas diversifiés. Donc, c'est essentiel de mettre la priorité sur cette stratégie de diversification économique.
Vous parlez de diversifier les sources de financement. C'est quoi l'idée déjà?
Alors, la diversification, elle est aussi une diversification des sources de financement. Pourquoi? À cause de cette pénurie de financement qui fait que l'argent est devenu plus cher. Et donc, dans un environnement où l'argent est devenu plus rare et plus cher, il faut chercher de nouvelles sources de financement. Et notamment des sources de financement domestiques, intérieure. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? C'est l'impôt, mais ça peut être aussi la mobilisation de l'épargne qui existe dans les pays avec les marchés financiers domestiques. Dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, les marchés financiers sont assez peu développés par rapport à d'autres pays émergents en Asie. Et donc, il y a un gros potentiel pour développer ces marchés et pour faire en sorte que les États, quand ils ne peuvent plus emprunter, ou les individus, ou les entreprises, hein, quand ils ne peuvent plus emprunter sur les marchés internationaux parce que c'est trop cher, ils peuvent se tourner vers les marchés intérieurs. Dans l'UMOA, ça serait le marché régional pour pouvoir emprunter.
Justement, la question, il y a un débat. Hein. Faut-il deux fois emprunter à l'extérieur ? Quand vous parlez de rebond, deux fois, c'est en devise. Le débat, c'est de mobiliser en interne dans la sous-région. Aujourd'hui, vous, au FMI, regardons un peu plus dans les environs que d'aller prendre en euros ou en dollars. C'est ce que vous préconisez.
Alors, on dit qu'il faut développer les marchés domestiques, les marchés intérieurs, mais ça ne veut pas dire que les pays doivent jamais emprunter à l'extérieur. Tout dépend du taux. C'est comme vous, quand vous allez à la banque, par exemple, vous voulez faire un emprunt parce que vous voulez acheter une maison, vous allez voir plusieurs banques et vous regardez celles qui vous donnent les meilleures conditions financières. C'est pareil avec les taux extérieurs et les taux domestiques. Vous allez voir combien vous pouvez avoir sur les marchés internationaux, combien vous pouvez aller sur les marchés intérieurs. Et vous prenez en compte le risque du taux de change, parce que quand vous empruntez sur les marchés internationaux, vous avez un risque, qu'on dit un risque de change, c'est-à-dire que si le change fluctue, ben vos remboursements qui sont en devise vont aussi changer d'un jour à l'autre.
Alors, la question de l'endettement. Est-ce que c'est une recommandation forte hein, dans vos rapports ? Parce que ça devient un boulet, hein. Deux fois pour ces pays-là, la nécessité de se développer, deux fois on emprunte pour développer, mais deux fois ça devient handicapant l'endettement.
En effet, la dette c'est bien tant que c'est pas trop haut. Quand ça devient trop haut, les charges d'intérêt, les remboursements de la dette deviennent tellement importants que ça absorbe une partie très importante des revenus et qu'ensuite, ça oblige les pays à faire des choix très difficiles puisqu'on a des charges d'intérêt très très importantes, on est obligé de couper des dépenses autres comme l'éducation ou la santé. Donc on ne veut pas que les pays arrivent à ce point où la dette est tellement élevée et les charges d'intérêt sont tellement élevées qu'on prend des décisions qui sont très mauvaises pour le potentiel économique du pays.
Quand on prend les décisions, le FMI n'incite pas à cela parce que bon, sous notre pic ici, on va le FMI, on se dit que bon, c'est ils incitent l'État à couper dans le budget. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit percevoir ?
Non, le FMI dit qu'il ne faut pas avoir une dette trop élevée. Et donc, pour baisser la dette, très souvent, il faut baisser les déficits. Notre conseil, c'est pour baisser les déficits publics, ce n'est pas forcément de couper les dépenses, mais c'est plutôt d'augmenter les recettes. Vous savez, quand vous avez un déficit public, il y a deux moyens de le baisser. Soit vous avez plus de recettes, soit vous avez moins de dépenses.
C'est cela.
Et nous, on conseille plutôt d'avoir plus de recettes, d'augmenter la pression fiscale, et comme je l'ai dit, pas forcément en augmentant les taux d'imposition, mais en élargissant ce qu'on appelle l'assiette fiscale, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait plus de contribuables qui payent l'impôt.
Alors, quel est votre regard, justement, par rapport aux efforts hein, des pays africains pour réduire ces déficits que vous avez notés ?
Alors, en effet, il y a des efforts tout à fait remarquables ont été faits en 2023 et continuent en 2024. Si je compare l'année 2022 et l'année 2024, les déficits publics ont baissé en moyenne dans l'Afrique subsaharienne, de 1,5 point de PIB. Pour vos auditeurs, je peux vous dire, c'est quand même grand, c'est important. C'est une baisse très importante des déficits.
Les déficits, expliquez simplement, c'est quoi ?
Alors, le déficit public, c'est les dépenses de l'État moins les revenus. Quand j'ai un déficit de 1% de PIB, ça veut dire que mes dépenses, elles sont 1% de PIB plus élevées que mes recettes. Donc, le déficit public, c'est l'indicateur principal que le ministre du budget regarde, parce que le déficit, quand on a plus de dépenses que de recettes, il faut le financer. Et comment on le finance ? Eh bien, il faut prendre de la dette.
C'est noté. Alors, on va terminer cet entretien. Alors, vous préconisez au FMI aussi hein, des efforts de mobilisation des ressources, comme vous l'avez dit, interne. Et cela passe aussi par le renforcement de la fiscalité, hein, comme vous préconisez. Mais comment réussir ce pari-là, sans créer des cas d'inflation ?
C'est une question très intéressante, l'effet de la pression fiscale sur l'inflation, et c'est une question très difficile pour les économistes. Il y a beaucoup d'augmentations d'impôts qui ne créent pas d'inflation. Si jamais je me mets à sanctionner ou à chasser les gens qui ne payent pas l'impôt, si je paye d'augmenter la discipline fiscale, ça va pas forcément augmenter l'inflation. Si on va s'attaquer aux niches fiscales dont bénéficient les grosses entreprises pour essayer de ne pas avoir trop de taxation sur leurs profits, ça va pas non plus augmenter l'inflation. Mais il est vrai qu'il y a certaines formes de taxation, comme la taxe sur la consommation. Si vous achetez un produit puis qu'il y a une taxe dessus, si on augmente cette taxe, bah, le prix du produit va augmenter. Donc c'est, en effet, ça a un effet sur l'inflation. Mais nous, en tant qu'économistes, on pense souvent que l'effet va être très temporaire parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet de palier. Quand vous mettez une taxe sur un produit, le prix du produit augmente, mais ensuite, il revient à son rythme de croissance précédent. Donc l'inflation augmente temporairement, mais ensuite elle redescend une fois que le prix du produit s'est ajusté.
Alors, vous avez une représentation en Côte d'Ivoire, hein, comme dans tous ces pays qui font l'objet d'études. Comment vous jugez aujourd'hui les efforts du pays pour assainir ses finances publiques et puis accroître ses indicateurs macroéconomiques ?
Le FMI a en effet un programme avec la Côte d'Ivoire, et ce programme porte ses fruits. C'est un programme de 5 milliards de dollars, et la Côte d'Ivoire a une très bonne performance sous le programme du FMI. D'abord, la croissance est forte, on a une croissance supérieure à 6% cette année, et donc ça place la Côte d'Ivoire dans les pays avec la croissance la plus forte de tout le continent. Ensuite, l'inflation est en baisse, les déficits publics sont en baisse. Et enfin, une très bonne nouvelle aussi, c'est que la Côte d'Ivoire a pu de nouveau accéder aux marchés internationaux. Donc nous, avec ce qu'on a appelé une émission euro-obligataire, qui est un terme technique pour dire en fait qu'ils ont emprunté sur les marchés internationaux. Donc tout ça, c'est un ensemble de bonnes nouvelles qui consacrent la bonne performance de la Côte d'Ivoire sous le programme du FMI.
Parlons de la Côte d'Ivoire. Si on vous demandait aujourd'hui, il y a un débat autour, est-ce que, en tant qu'économiste, la dette de la Côte d'Ivoire, vue de l'extérieur, est viable?
Les rapports du FMI montrent que la dette de la Côte d'Ivoire est viable. On n'a pas de problème de ce qu'on appelle, nous, de soutenabilité de la dette. La dette aussi, elle est un peu inférieure à 60% du PIB, donc elle est à peu près dans la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne. Vous savez, en Afrique subsaharienne, il y a des pays qui ont plus de 100% du PIB de dette publique, donc on est loin de ça.
Donc c'est un bon élève pour vous, qui suit vos recommandations?
Je dirais que c'est un pays qui a une très bonne performance et qui poursuit des bonnes politiques économiques, et que la population de Côte d'Ivoire, avec la baisse de l'inflation, avec le retour sur les capitaux, sur les marchés de capitaux internationaux, la population de Côte d'Ivoire bénéficie aussi de ce programme et de la crédibilité des politiques mises en œuvre.
Merci à vous, Monsieur Luc Hérault. Je rappelle que vous êtes chef des études régionales pour l'Afrique subsaharienne au FMI, donc au Fonds monétaire international, basé à Washington. Vous êtes en tournée, en tout cas, dans certains pays de la sous-région pour parler de ce rapport qui est publié deux fois dans l'année pour permettre à la population, aux économistes, de savoir comment les économies bougent. C'est important en tout cas. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Amis auditeurs, ça a été un plaisir pour nous de recevoir cet expert du FMI pour parler de ce rapport sorti au mois d'avril 2024. Il parle donc des perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne. Merci à vous. Et puis on se retrouve avec beaucoup de plaisir avec un autre expert. C'est sur Radio de la Paix.
C'était l'entrevue
Radio de la Paix.